Bonsoir à tous et bienvenue à cette étude biblique. Alors sur le programme mensuel, il était annoncé que le thème serait le royaume du Nord, mais j'avais prévu de faire cela avec un diaporama, avec de belles photos. On aurait vu des beaux paysages d'Israël, les ruines de Samarie, etc. Du coup, j'ai changé de thème. On sera pour ce soir dans un thème un petit peu technique. On va parler de la crédibilité historique de Jésus dans les évangiles et donc de la crédibilité historique des évangiles tout court. Mais avant même de commencer, je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous voulons maintenant nous placer devant toi, te demander de remplir notre cœur et que nos pensées puissent se tourner vers toi, qu'à travers tout ce qui sera partagé, nous puissions être nourris, édifiés, nous puissions recevoir des éléments de réponse aussi pour répondre de notre foi avec douceur et respect comme ta parole nous le commande. Te confions ces instants en te demandant aussi d'être auprès de chacun d'entre nous dans ce temps si particulier de confinement, dans la solitude, avec peut-être certaines inquiétudes concernant l'avenir, ce que notre monde va devenir. Seigneur, remplis notre cœur de ta paix et fais de nous des témoins de ton espérance. Amen. Aujourd'hui, les sociétés occidentales post-modernes prônent la laïcité. Certaines rejettent leurs racines judéo-chrétiennes et ne se revendiquent plus du christianisme. Néanmoins, l'héritage chrétien n'a pas totalement disparu. Et il est donc important de remonter le temps pour comprendre qui est à l'origine de cette civilisation. Et il nous faut aller jusqu'au premier siècle de notre ère, au temps de Jésus de Nazareth. Car c'est bien Jésus de Nazareth qui a changé la face du monde. Et notre calendrier marque d'ailleurs ce changement. Il y a un avant et un après Jésus-Christ. Il n'est pas superflu de se poser des questions à son sujet. Qui est Jésus de Nazareth? A-t-il vraiment existé? Les évangiles sont-ils crédibles? Le Jésus des évangiles est-il bien le Jésus de l'histoire? Alors l'étude qui va suivre a pour but d'éclairer ces quelques points. Dans un premier temps, nous nous pencherons sur la question de la fiabilité du texte des évangiles et dans un deuxième temps, nous exposerons divers arguments à propos de l'historicité de Jésus. Et ensuite, nous essayerons de montrer que l'authenticité des paroles et des actes de Jésus et nous aborderons enfin la problématique du rapport entre la crédibilité historique et la foi avant de conclure courtement. Alors tout d'abord, la fiabilité du texte des évangiles. Le texte que nous pouvons lire aujourd'hui dans nos Bibles est-il fiable? A-t-il été falsifié, comme on peut entendre parfois? Alors bien sûr, on pourrait tout simplement répondre que oui, le texte est fiable et non, il n'a pas été falsifié. Mais nous allons ajouter quelques arguments à cette réponse qui pourrait être un petit peu courte. Tout d'abord, le nombre et la date des manuscrits. Le nombre de manuscrits ou de fragments de manuscrits du Nouveau Testament en grec est de plus de 5000. À ce nombre important, il faut encore ajouter plus de 18 000 manuscrits ou parties de manuscrits en d'autres langues. Le Nouveau Testament est l'œuvre de l'Antiquité dont nous possédons le plus de manuscrits. On dit qu'elle est l'œuvre de l'Antiquité la mieux attestée. À titre de comparaison, les 6 premiers livres des Annales de Tacite sont issus d'une trentaine de manuscrits datant du XIIIe siècle pour le plus ancien d'entre eux. Pour le Nouveau Testament, l'écart entre les faits rapportés et les premiers manuscrits que nous possédons est relativement court. Les codex Vaticanus et Sinaiticus datent de 350 après Jésus-Christ, soit environ 250 ans après l'original. Le plus vieux fragment du Nouveau Testament retrouvé date de 130 après Jésus-Christ. C'est un petit fragment de l'Évangile de Jean, 5 versets seulement, qui a été découvert en Égypte. L'original est donc antérieur et date probablement des années 90 de notre ère. Ces données n'ont rien de comparable avec les autres œuvres de l'Antiquité. Par exemple, la guerre des Gaules de Jules César, que personne ne remet en cause, provient de manuscrits datant de 900 ans après les faits pour les plus anciens. Et ces derniers manuscrits sont au nombre de 251 seulement. Il en va de même pour les écrits d'Hérodote ou de Thucydide, et on pourrait multiplier les exemples. L'œuvre la mieux attestée de l'Antiquité après le Nouveau Testament est l'Iliade d'Homère, avec 1757 manuscrits, mais il date de 400 ans après les faits, après leur écriture. Pourtant, aucun spécialiste ne doute de l'authenticité de tels écrits, et même de la fiabilité de leur transmission. Il y a peut-être ici ou là, et c'est la science de la critique textuelle qui nous le dit, eu des erreurs, forcément, de copie, des erreurs de grammaire, de copie, des mots qui manquent, un paragraphe qui saute, etc. Mais tout cela, c'est la critique textuelle qui nous permet de le voir. Il est raisonnable, donc, d'accorder au texte du Nouveau Testament au moins autant de crédit que toutes ces autres œuvres de l'Antiquité, voire plus. Le texte du Nouveau Testament est aujourd'hui très fiable. Les spécialistes estiment que le texte qui est à notre disposition actuellement est très proche du texte original. Les accusations de falsification du texte biblique ne tiennent pas devant ces données. Nous connaissons le texte original du Nouveau Testament à plus de 99%, et donc, par conséquent aussi, celui des quatre évangiles qui font partie du Nouveau Testament. Que nous dit l'archéologie et l'histoire? Tout d'abord, les évangiles sont beaucoup plus précis qu'on ne l'a cru pendant longtemps. Ils contiennent de nombreux détails sur les villes et les villages du temps de Jésus, sur les façons de vivre, de parler, sur les personnages officiels et leurs titres. L'histoire et l'archéologie confirment que tous ces éléments sont exacts. Au XXe siècle, on a découvert que sur plusieurs points, les évangiles avaient raison contre ce que les historiens ont cru erroné pendant longtemps. L'évangile de Jean, par exemple, pourtant réputé plus spirituel et moins précis que les évangiles synoptiques, contient de nombreux noms de localités, environ 20 de plus que dans les autres évangiles. Un certain nombre de ces dernières ont pu être identifiées alors qu'elles avaient disparu. Les historiens n'en ont retrouvé l'existence que récemment. Par exemple, certains se sont demandé si le village de Nazareth n'avait pas été inventé par les évangiles parce que l'Ancien Testament n'en parle pas. Mais en 1962, une équipe d'archéologues israéliens dirigée par le professeur Avi Jonah a trouvé dans les ruines de Césarée Maritime une plaque gravée en hébreu datant du IIIe siècle après Jésus-Christ portant le nom du village de Nazareth. Quant aux fouilles opérées à Nazareth, elles montrent une occupation très ancienne. L'occupation de cette ville remonte au 7e siècle avant Jésus-Christ. On y trouve de nombreuses habitations creusées dans le roc, ainsi que des tombeaux datant d'avant l'occupation romaine, au 1er siècle avant Jésus-Christ. Toutes les théories échafaudées, affirmant que les évangélistes auraient inventé la cité de Nazareth, ne tiennent donc pas. Il en va de même pour un autre détail que je vous donne maintenant, la fameuse piscine de Bethesda, aux cinq portiques, comme nous dit l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 2. Certains lecteurs considéraient que ces cinq portiques étaient imaginaires, puisque c'est une architecture assez particulière. Retrouver le nombre de cinq portiques dans l'architecture, c'est quelque chose que nous n'avions retrouvé nulle part ailleurs à cette époque. La conclusion était donc que ce détail des évangiles avait probablement été inventé. Or, le bassin de Bethesda a été retrouvé à Jérusalem, près de la porte des brebis, et il y avait bien 5 portiques, comme nous le dit le texte de l'évangile de Jean. Quant à Pilate, le préfet romain qui a condamné Jésus à mort, personne n'avait pu retrouver sa trace pendant 18 siècles. Seules quelques mentions dans les écrits de Flavius Joseph nous permettaient de confirmer que Pilate était bien gouverneur ou préfet, comme le précisent les évangiles. Mais en 1961, des archéologues italiens ont retrouvé son nom gravé sur une pierre avec sa fonction précise, préfectus. Ensuite, ce titre a changé dans la seconde moitié du 1er siècle pour devenir procurateur. C'est pourquoi Tacite donne par erreur ce titre à Pilate. Nous pouvons donc conclure que ceux qui ont écrit les évangiles nous disent la vie telle qu'ils l'ont vécue avant l'écrasement de la révolte juive par Titus en l'an 70. L'archéologie a permis de montrer la rigueur historique du contenu des évangiles. Cette vérification d'après les données archéologiques, géographiques et politiques pourrait bien sûr être plus développée, on pourrait multiplier ici les exemples, mais il nous faut aborder d'autres questions encore. Le contenu des évangiles maintenant est la personne de Jésus. Nous avons montré, dans les quelques minutes qui précèdent, que le texte des évangiles et le contexte décrit dans les évangiles sont fiables. Malgré cela, de nombreux sceptiques soutiennent que le récit des évangiles est un mythe dont il faut découvrir le sens caché. Alors que sait-on à propos de Jésus, le personnage principal de ces 4 récits ? Faut-il y voir un personnage historique ? Le débat entre historialité et historicité de Jésus a fait déjà couler beaucoup d'encre. Et c'est pourquoi il nous faut en dire un mot maintenant. L'historicité de Jésus est tout d'abord les preuves externes. L'historien juif Flavius Joseph est la plus importante source externe au Nouveau Testament qui mentionne Jésus. Ce dernier est décrit comme un homme exceptionnel qui accomplissait des choses prodigieuses. Flavius Joseph donne même des éléments précis à propos de Jésus. Il avait un frère appelé Jacques. Il a été condamné à la croix par Pilate. Toutes ces données sont confirmées par les évangiles. Même si certaines précisions ont pu être ajoutées par des chrétiens aux écrits historiques de l'histoire de Flavius Joseph, nous ne pouvons nier que Flavius Joseph mentionne bien Jésus de Nazareth. D'autres auteurs païens citent également Jésus, sous le nom de Christ, dès le début du IIe siècle. C'est le cas de Suétone, de Pline le Jeune et de Tacite. Ces 3 témoignages sont également conformes aux événements décrits par les évangiles et l'ensemble du Nouveau Testament, et on ne peut pas les accuser de vouloir promouvoir le christianisme, puisque dans leurs écrits, ces auteurs sont plutôt méprisants envers les chrétiens. Ces preuves restent relativement maigres, mais il faut bien comprendre que la Palestine n'était qu'une petite région dans l'Empire romain. Cela peut tout à fait expliquer le peu de mentions de Jésus chez les historiens de l'époque. Pour savoir qui était vraiment Jésus, il nous est donc indispensable de regarder de près ce qu'en disent les évangiles. Ces derniers ont été écrits par des Palestiniens de l'époque et d'après des témoignages locaux. Et c'est ce qui nous permet maintenant de passer aux preuves internes. Les 4 évangélistes présentent Jésus comme ayant réellement existé. Luc au chapitre 1, les versets 1 à 4, nous précise que plusieurs ont voulu écrire un récit de sa vie. Luc était très pointilleux et il a mené une enquête sérieuse auprès de témoins oculaires, toujours en vie, afin d'écrire son évangile. Il a rédigé son évangile à partir de sources orales, mais aussi de sources écrites. La plupart des spécialistes, sinon la totalité, admettent l'existence de sources écrites. Les évangélistes n'ont donc pas inventé ce qu'ils ont écrit, mais se sont basés sur différentes sources. Les différences entre les évangiles sont en partie explicables par l'intention que les évangélistes avaient en rédigeant les évangiles. Le public visé par chaque évangile est différent pour chaque évangéliste. Par exemple, Matthieu, qui était un disciple de Jésus, s'adresse plutôt aux Juifs en démontrant que son maître était le Messie annoncé par les prophètes, tandis que Luc et Jean s'adressent principalement à des non-juifs. Néanmoins, les quatre évangiles restent compréhensibles par tous, comme le théologien catholique Richard Bauckham l'a montré. Les évangélistes étaient donc proches de Jésus. Matthieu et Jean avaient vécu 3 ans avec Jésus. Marc tient ses informations de Pierre. Ça, nous le savons d'après le témoignage de Papias, qui est cité par Eusèbe. Ils racontent ce qu'ils ont vu et entendu. Ce n'est pas le cas des auteurs des évangiles apocryphes, comme l'évangile de Thomas, l'évangile de Philippe, l'évangile de Judas, qui ont écrit bien plus tard et qui ont utilisé la pseudonymie pour se faire passer pour des apôtres. Les évangiles nous présentent Jésus comme un homme. Il est né, il a grandi, il a mangé, il a eu soif, il a pleuré, il fut fatigué. La foule reconnaissait en Jésus un homme, elle reconnaissait en Jésus le fils du charpentier, puisque Joseph, son père adoptif, était charpentier. Le Jésus des évangiles. Sa naissance est probablement située en moins 6. Nous comptons aujourd'hui les années théoriquement depuis la naissance de Jésus, mais en 525, un moine nommé Denis le Petit a fait la concordance entre le calendrier romain et l'ère de Jésus-Christ, calendrier grégorien, et s'est trompé de 6 ans. Du coup, Jésus est probablement né en moins 6. D'après William Ramsay, Quirinius était bien gouverneur de Syrie à ce moment-là, comme nous le précise Luc au chapitre 2, le verset 2. Au moment de sa naissance à Bethléem, Hérode le Grand était donc bien le roi de toute la Palestine. Jésus a vécu son enfance à Nazareth. Par la suite, il fut un enseignant itinérant, comme plusieurs autres rabbis de son temps. Il s'est entouré de disciples, comme le faisaient aussi les autres maîtres ou docteurs de la loi, surtout dans le milieu pharisien. Il a prêché une nouvelle loi, une nouvelle éthique, basée sur le principe de l'amour du prochain. Finalement, sa vie s'acheva sur une croix, à l'écart de Jérusalem. Il avait été condamné à ce supplice sous Ponce Pilate, probablement le 7 avril de l'an 30, 14 ou 15 du mois de Nisan. On ne sait pas quel jour Jésus a dit telle phrase, mais on peut être sûr qu'il l'a dite. Sur ces points, les évangiles sont aussi fiables, et nous allons voir pourquoi. En tout cas, dans un premier temps, en ce qui concerne les paroles de Jésus. Et ensuite, nous verrons les actes de Jésus. Lorsqu'une personne écrit un livre, il n'est pas toujours facile de prouver que l'auteur officiel est l'auteur réel. Et quand la question se pose, on va avoir recours à la cohérence entre ce qui est écrit dans ce livre, ce que l'auteur peut avoir écrit dans d'autres livres, et ce que ses amis ou tous les autres témoins de sa vie peuvent rapporter. Jésus, lui, n'a pas écrit de livre, mais nous avons 4 témoignages écrits de sa vie. Les 4 évangiles du Nouveau Testament. Ce sont eux qui racontent la vie et les enseignements de Jésus. La cohérence des évangiles est exceptionnelle et défie les siècles. Ce que Jésus a voulu que nous sachions de sa vie, de son enseignement, nous pouvons le connaître en lisant les évangiles. Cependant, certains adversaires du christianisme font état de divergences dans les évangiles, par exemple le nom ou le surnom de ses apôtres, le nombre de ses voyages à Jérusalem. Et de plus, le récit des enseignements peut différer dans le mot à mot. À cela, nous pouvons répondre que ces divergences sur les détails ne sont non pas un obstacle, mais une confirmation de la véracité des enseignements. En effet, nous sommes sûrs d'avoir affaire à plusieurs témoins véritables et non pas à un seul témoin qui aurait fait apprendre la leçon aux autres. Et ce qui est plus extraordinaire encore, c'est qu'au-delà des divergences, c'est la même doctrine de fond qui est exprimée. Les disciples étaient des gens simples, sans beaucoup d'instruction. Ils étaient dispersés dans le monde romain de l'époque à cause des persécutions. Comment auraient-ils pu donner des récits différents d'une même doctrine si cette doctrine n'existait pas à la base? Et comment auraient-ils pu soudain donner des noms de villages, des détails de monuments et décrire des façons de vivre, des rôles sociaux et politiques qui disparaissaient dans la tourmente des années 60 à 70? Comment auraient-ils pu faire cela s'ils n'avaient pas réellement vécu ces événements? L'un des éléments qui pèse d'un grand poids pour l'authenticité est le fait que les évangiles ne cachent pas les erreurs et les faiblesses des apôtres. Le reniement de Pierre en est un bel exemple. Plusieurs fois, Jésus reprend aussi sévèrement ses disciples, notamment dans l'évangile de Marc. Jésus dit à Pierre, dans Marc chapitre 8, verset 33, Va-t'en derrière moi, Satan. Il y a donc un souci de vérité dans les évangiles, et ce dernier traverse tous les écrits du Nouveau Testament. Ainsi, si on met tout cela ensemble, nous avons souci de vérité et cohérence des témoins dispersés géographiquement. Ceci est une très bonne base pour affirmer l'historicité de la vie et de l'enseignement de Jésus. Les miracles de Jésus. C'est vrai que ce qui pose souvent problème et qui est une question plus délicate lorsqu'on parle de l'historicité de Jésus, ce sont les miracles. Car par définition, un miracle est quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire. Avant le XVIIIe siècle, presque personne n'avait de doute sur l'historicité de Jésus. Mais avec l'arrivée du rationalisme et à cause des miracles rapportés dans les évangiles, plusieurs ont commencé à en douter, notamment un certain Ray Marus. Et donc, il ne nie pas que Jésus a existé, ce fameux Ray Marus, mais que le récit que nous avons dans les évangiles est de l'ordre de l'histoire avec un petit h et non avec un grand h. Alors tout d'abord, il faut préciser que la plupart des miracles de Jésus ont lieu devant des témoins, parfois une foule entière. Au moment où les évangiles sont rédigés, il reste probablement encore beaucoup de témoins en vie. Les premiers lecteurs pouvaient vérifier par eux-mêmes la véracité de ces faits, bien qu'ils soient extraordinaires. Dans Jean 9, nous avons le récit de la guérison d'un aveugle de naissance. La guérison n'est pas simplement constatée par l'intéressé lui-même, mais les pharisiens aussi, ainsi que ses parents, qui sont contraints de constater le miracle. Ces faits dépassent effectivement la compréhension humaine, mais ils étaient néanmoins déjà prédits dans l'Ancien Testament, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Le prophète Ésaïe, par exemple, au chapitre 35, les versets 5 et 6, disait que le Messie rendrait la vue à des aveugles. D'autres miracles peuvent s'expliquer par un phénomène naturel. Lorsque Jésus parle à la tempête et que cette dernière s'apaise, le miracle est dû à un arrêt du vent, ce qui est un phénomène naturel. Ce qui est miraculeux dans ce récit, c'est que le vent s'arrête à l'instant où Jésus a fini de lui dire tais-toi. Ceci dit, tous les miracles ne peuvent pas s'expliquer de cette manière. Et c'est pour cela qu'ils sont précisément des miracles. Jésus n'était pas un homme comme les autres. Et les miracles qu'il a faits nous le montrent. Et le plus grand des miracles qui nous montre que Jésus n'était pas un homme ordinaire, c'est sa résurrection. Pour expliquer la résurrection de Jésus, de nombreuses tentatives d'explication ont été données. Ray Marus, que j'ai déjà mentionné, a soutenu l'idée que le corps aurait été volé. Mais cette version ne tient pas avec les données des évangiles. En Matthieu 28, d'ailleurs, les versets 11 à 15, il nous est dit que les gardes du tombeau de Jésus ont menti contre de l'argent en disant que les disciples avaient volé le corps pendant la nuit alors qu'il dormait. Piètre mensonge, comment peut-on dire ce qu'il se passe lorsqu'on dort? Les témoins de la résurrection sont nombreux. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 15, verset 6, précise que la plupart des témoins de la résurrection sont encore en vie au moment où il écrit. Quiconque en doutait pouvait alors vérifier cette information. En outre, si les disciples avaient eu l'intention de fonder une nouvelle religion, ils n'auraient pas affirmé que Jésus était ressuscité corporellement. Ils auraient plutôt inventé une résurrection d'ordre spirituel. En effet, il aurait suffi que les autorités romaines leur montrent le corps de Jésus pour que la résurrection corporelle de Jésus soit discréditée. Les évangélistes, en choisissant la voie la plus exigeante, celle d'une résurrection physique, étaient donc persuadés qu'elle avait vraiment eu lieu, et ce d'autant plus qu'ils risquaient leur vie en affirmant de telles choses. S'il est vrai donc que Jésus n'est pas seulement un homme, Jésus est-il vivant aujourd'hui? De nombreux passages dans les évangiles, en tout cas, nous montrent que Jésus n'était pas seulement un homme, il était revêtu d'une autorité supérieure à celle des hommes. Il a notamment le pouvoir de pardonner les péchés, prérogative qui n'appartient qu'à Dieu seul. Les disciples ont reconnu en lui le Messie promis. Lui-même a affirmé n'être qu'un avec Dieu, son Père. L'absence de preuve absolue de ces vérités rend la foi nécessaire. Mais on ne peut pas dire que Jésus était simplement un enseignant rempli de sagesse et très influent. Il a lui-même affirmé à plusieurs reprises qu'il était Dieu. Il reprend d'ailleurs le nom de Yahvé avec les fameux « Je suis » de Jésus. « Je suis le bon berger, je suis la porte, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Quelle prétention si Jésus n'était qu'un homme. Lorsque quelqu'un déclare croire en Jésus, cela ne signifie pas seulement croire intellectuellement à la véracité historique de Jésus, mais véritablement adhérer au message de Jésus. Ce dernier n'a pas seulement enseigné la sagesse et l'amour, mais il a donné sa vie pour racheter l'humanité corrompue par le mal. Cette bonne nouvelle, qui constitue le message principal de l'Évangile, transforme celui qui y croit. Et aujourd'hui encore, des millions de personnes peuvent témoigner de cela. Certains d'ailleurs le font au péril de leur vie dans des pays où le christianisme n'est pas accepté. Très brève conclusion à présent. Les preuves de l'existence de Jésus sont importantes et nous n'avons pas pu exposer ici l'ensemble des preuves mais quelques éléments. Nous espérons que cette étude vous permettra de lever votre doute sur l'historicité de Jésus de Nazareth, si vous en aviez un. Peut-être aurez-vous envie d'en connaître plus sur cette personne. Alors lisez tout simplement ou relisez les évangiles.